Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le chip.
Le chip.
Le chip.
Un petit bruit buccal, subtilement dosé, le chip est en danger.
Rendez-nous le chip.
Les cabines UV de France et de Navarre sont bientôt hors la loi. Le code de l'iPhone de Kanye West, c'est 0000. Et seul Booba nous permet de ne pas sombrer dans la déprime automnale. Vous écoutez le chip. Je m'appelle Mélanie Wanga et je suis entourée, as usual, de Kevin Donna.
Bonsoir.
Et de François Aulac.
Je suis là, en effet.
Et on est de retour pour un nouvel épisode du chip. Alors, pour commencer, j'avais envie de vous raconter que récemment, j'ai été invitée sur François dans l'émission Les Témoins d'Outre-mer, que Kevin, tu connais pour tes nombreux passages déjà.
Une ou deux fois.
Oui, une ou deux fois, quelques fois. J'y suis allée pour parler d'appropriation culturelle. Et oui, j'ai bien pensé à mentionner le chip, parce que hashtag autopromo, comme
toujours.
Tu nous
as plugué.
Voilà, exactement.
Aïe.
On a parlé de wax, de mode en général, et aussi des canons de beauté, avec deux autres invités.
Bah, Kim Kardashian, c'est un cas assez particulier, parce qu'elle est régulièrement accusée en fait, de profiter de la culture noire, de la culture africaine, notamment que ce soit bon, sur les tresses, mais aussi sur les opérations de chirurgie esthétique qu'elle et ses sœurs ont eues, en fait, qui reproduisent quand même beaucoup les traits typiques des femmes noires. Et je pense que la problématique, c'est qu'en fait, les femmes noires... qui ont ces traits-là naturellement
que,
ne
coup,
sont pas mises en
même.
Valeur dans la mode ou dans les médias de la même manière, alors que quand c'est Kim Kardashian qui a des grosses lèvres et des grosses fesses, tout de suite on se dit « Ah mais c'est génial, on a trouvé un nouveau modèle féminin ».
Et du coup, voilà, en vrai, vous en pensez quoi de l'appropriation culturelle si on n'en a jamais parlé ici, quoi.
Je suis pour, je trouve ça génial. Je trouve ça tout à
Le
tout,
mélange des cultures.
Tout est génial, voilà. Je pense que la colonisation est un grand partage de cultures, il faut continuer à partager, ouais.
J'ai pas mieux que François Fillon ou Lac, du coup, comment tu t'appelles maintenant, c'est...
Filac.
Parce que du coup, j'ai quand même été confrontée à la question, mais est-ce que les Blancs ont le droit de porter du wax?
Oui, ce qui est une question épineuse, alors qu'en fait, l'enjeu, c'est pas de dire aux gens ni aux Blancs ce qu'ils ont le droit ou pas de porter. C'est une question de... J'imagine que l'idée, c'est de condamner le contexte qui fait que les Blancs sont plus récompensés et moins sanctionnés pour ce genre de choses que les gens qui ont donné naissance à ce genre de culture. Bref.
Merci François.
J'ai résumé ton intervention.
Très bien. Bah, je sais qu'on avait dit qu'on ne faisait pas de buzz à la télé, mais bon, là, c'est François, donc ça fait plaisir à la famille, ça soutient les petits producteurs. Donc voilà, on est contents. Si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus sur l'appropriation culturelle, je crois que le replay est toujours en ligne sur le site des Témoins d'Outre-mer. Alors, au sommaire de cet épisode, deux hommes. Deux destins, deux ambiances un peu.
Ouais. Deux salles, deux ambiances.
D'abord, François va tenter de dénouer le problème entre le chanteur slash rappeur slash lover Drake et les femmes, ouais. Dans sa musique comme dans sa vie, on peut dire.
Oui, Drake a un problème avec les femmes, il faut qu'on en parle.
Ok, très bien. Et puis du coup, Kevin, toi, tu vas tenter de comprendre pourquoi la pop culture française a tant de difficultés à se détacher de l'ombre du comédien slash humoriste slash star Eddie Murphy.
Slash légende,
ouais.
Goat.
Oui, c'est vrai qu'on a tous vu les affiches du Flic de Belleville, donc on peut se poser la question, quoi. Et on va finir par nos recommandations pseudo-culturelles de la quinzaine. C'est parti.
Alors moi, cette semaine, je voudrais décerner un énorme trash. Est-ce que vous connaissez le film How High? Film culte.
Non.
Smoke, chippa.
Désolé.
comédie culte américaine avec Method Man et Red Man, deux légendes du rap, sorti en 2001. Ça raconte l'histoire de deux étudiants noirs qui débarquent à Harvard, qui fument de la weed et qui foutent le bordel.
Ces jeunes ont tous une volonté, celle de réussir.
Non, je rêve, on a un queue blanc comme
la
comité d'accueil.
Quand je te dis qu'ils nous ont déroulé le tapis rouge, alors ça va, mon frère.
On est dans
Alléluia, ça va le faire.
Ouh.
Non, je disais...
Comment on parle ?
T'as vu ça ?
Nous allons le pauvre, il a passé tellement de temps avec les Blancs qu'il en a oublié ses origines.
Chope-le !
Cette tafiole de Jiminy Cricket avec son costard vert et son balai dans le cul.
Chope-le !
Avec sa coupe à la Colin Powell qui passe les troupes de l'armée en
gueule. Chope-le !
Avec sa petite moustache à la Rick James sapée comme un boy scout pour aller au bal.
Chope-le !
Avec ses lunettes de premier de la classe pour lui tenir sa tronche de négro civilisé parce qu'elle va tomber
Chope-le
si jamais il l'a eu. Avec son air de faux d'air chez la Séminélis qu'il est tellement près du sol qu'il a plus besoin de se baisser pour ramper.
Chope-le !
Avec sa petite sape de papy pour aller draguer les mémés en bois.
Chope-le !
Avec ses mimiques à la corde des lieux que la planète des
hommes. S'il vous plaît.
Si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais que vous alliez vous asseoir, que je puisse poursuivre le cours.
On s'excuse.
On a tous vu le film, enfin beaucoup n'ont.
Non, mais la VF là m'a donné envie. Mais...
Ben, en fait, on l'a tous vu à l'époque en français et en DivX. Donc j'avoue que j'ai gardé l'extrait en VF. Donc voilà, How High, classique de la weed comedy, de la black comedy, avec plein de répliques cultes, plein de personnages cultes. Tout le monde se souvient de I Need Money. Tu te souviens pas ou pas?
Je l'ai vu en 2003 une seule fois ça m'a suffi.
Ok, d'accord.
Mais j'ai bien aimé sur le coup. Mais aucun soutien.
Bon, c'est pas grave. Ça fait plus de 10 ans maintenant que les fans réclament une suite avec Method Man et Redman, et que Method Man et Redman disent qu'ils vont faire une suite, qu'ils sont en projet, qu'ils discutent, etc. La suite a enfin été annoncée, elle va être produite par MTV. Et en fait, Method Man et Redman, les deux stars du film, ne seront pas dans cette fameuse suite. Donc c'est pour ça que je décerne un énorme trash. Finalement, c'est. Je sais pas ce qui s'est passé en interne, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que Lil Yachty et DC Young Fly, qui est un rappeur et un comique de l'émission Wild N Out de Nick Cannon, seront donc parmi les deux rôles principaux. Et que. Pour l'instant, Method Man et Redman, donc les deux acteurs principaux du premier film, ne seront pas présents, ne serait-ce qu'en tant que caméo dans le film. Et donc les fans sont révoltés, moi y compris, à tel point qu'il y a une pétition qui est en train de circuler.
Que tu as signé, bien sûr.
J'ai pas encore signé, mais je compte le faire et j'invite tout le monde et tous les gens qui écoutent le chip à signer
en masse.
Et signer en masse. Il y a 5300 signatures pour l'instant et qui réclament tout simplement à. Qu'on répare cette injustice de ne pas mettre Method Man et Redman dans le film 2.
Moi, j'ai une contre-pétition. C'est pour qu'on fasse un reboot. Mais à la place de Redman et Method Man, ce serait Justin Bieber et Post Malone.
Ok, sort tout de suite d'ici. Mais voilà, j'aime pas Lil Yachty, j'aime pas sa coupe de cheveux, j'aime pas sa musique. Le rap, c'était mieux avant. Donc voilà, signez la pétition. Merci.
Mon Dieu.
Alors, on va rester un peu dans le côté rap, le côté sombre, le côté obscur, puisque je voulais quand même revenir sur le tweet beef de Azealia Banks et Lana Del Rey de la semaine dernière. Parce qu'on sait qu'on est en 2018, qu'on est dans la timeline la plus sombre, ou celle où rien ne va plus. Et du coup, juste pour ceux qui n'ont pas suivi, je fais un petit récap, vite fait. Lana Del Rey, donc chanteuse californienne éthérée, on va dire, a laissé un commentaire sous un post Instagram de Kanye West qui avait sa jolie casquette « Make America Great Again », qui gassait Trump à fond, comme d'habitude. Et je ne vais pas lire en entier son commentaire, mais en gros, dans ce qu'elle disait, c'était que Trump soit devenu notre président a été une perte pour le pays et que tu le soutiennes est une perte pour la culture. Elle a comparé un peu leurs deux narcissismes et leurs deux delusions of grandeur. Et en gros, répéter un peu ce que tout le monde pense de Kanye West depuis 2 ans, quoi. Et c'est là qu'intervient Azealia Banks. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi ces dernières péripéties, donc Azealia Banks en 2012, c'était la star du rap de demain. Et en 2018...
star du rap de demain.
Voilà. En 2018, c'est la rappeuse déchue. Elle pratique la sorcellerie, la brujeria. En gros, elle sacrifie des poulets dans son placard, entre autres.
Moi, je trouve pas ça. Moi, je trouve pas ça problématique du tout.
Même les pratiquants de brujeria ont dit que ce qu'elle faisait n'était pas très clean. Enfin, c'est pas fait de manière, on va dire, dans les règles.
Ouais,
mais bon,
après, qu'elle filme son placard plein de sang de poule, ça, j'avoue, c'est chelou.
J'ai pas fini sur ce sujet-là. Mais bon, en gros, elle est arrivée. Elle a accusé Lana Del Rey de vouloir paraître woke à peu de frais dans les commentaires de Kanye West. Elle a exigé qu'elle s'excuse immédiatement auprès de Kanye. Mais là où du coup ça commence vraiment à ressembler à un épisode de Charmed, c'est que Lana Del Rey aussi c'est une sorcière, quoi.
Si
Lana Del Rey en 2016, elle a fait les gros titres parce que elle avait dit avoir jeté un sort à Trump pour l'empêcher de pouvoir passer des lois. Donc ça devient que moi, c'est ça qui m'a beaucoup fait rire, plus que le côté Kanye West. Enfin voilà, tout ça, on sait, c'est toujours la même chose. C'est le même cycle qui se répète, ça nous saoule, quoi. Mais du coup, moi, c'est aussi la réponse qu'elle a fait à Azalea Banks, qui m'a prise de court, parce qu'elle lui a fait un énorme paragraphe en lui disant « Oui, tu veux paraître woke, oui, mais en fait, t'as rien à dire. » Et elle a juste répondu « You know the adage, pull up anytime, say it to my face, but if I were you, I wouldn't. » En VF, tu connais la dreadresse, je sais pas, l'adresse. Ramène-toi quand tu veux, dis-le-moi en face, mais si j'étais toi, je le ferais pas. Et du coup, en fait, je veux juste analyser pourquoi c'est un bon tweet, en fait. Pourquoi quand tu te clashes avec quelqu'un sur Twitter, c'est ce type de réponse qu'il faut faire, en fait. Dans un moment où tu sais que t'engager sur le terrain politique et répondre à la personne en face, ça va t'amener dans un truc, tu vas pas en sortir grandi. Vaut mieux tout de suite sortir les guns, quoi. Tu sors tout de suite une réponse à la Scorsese.
Tu vas donner un iconique à la Valérie, du coup ?
Laisse-moi finir.
Vas-y.
Mais moi, j'ai bien aimé cette réponse, ce côté... Bon, en fait, je débat pas, mais vas-y, tout de suite, j'appelle mes copains rappeurs. Ça m'a fait rire, pour le coup. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment l'uppercut final, quand Lana Del Rey finit par pointer ce que tout le monde, au final, sait aussi au sujet d'Azalea Banks, c'est qu'elle a foiré sa carrière. Donc, tu aurais pu être la plus grande rappeuse vivante, mais tu as tout foutu en l'air. Ne te venge pas sur la seule personne qui t'a soutenue. Certains, en fait, disent que Lana Del Rey, c'est une bad bitch qui s'est déjà battue dans le ghetto et c'est pour ça qu'elle fait ce genre de réponse.
Lana Del Rey,
la meuf est millionnaire.
Ce qui me fait énormément rire. Ce qui me fait beaucoup rire parce qu'effectivement, c'est une petite fille riche qui s'achète une crède. Mais d'autres disent, et je pense qu'ils n'ont pas tort, qu'elle a des rappeurs à disposition qui sont prêts à venger son honneur. Mais bien sûr que si. A$AP Rocky, il arrive avec un gun.
Elle a fait un featuring avec A$AP Rocky qui n'est jamais sorti sur son album officiel.
Non, mais moi, je suis sûre qu'elle a des copains rappeurs qui sont prêts à la défendre.
C'est personne, franchement.
Mais plus largement, pour terminer, je pense qu'on a quand même un problème avec les femmes blanches qui dénoncent Kanye West sur les réseaux sociaux. Parce que, bon, Lana Del Rey répond à un de ses commentaires. Donc, pourquoi pas ? Il y a une action, il y a une réaction. Mais par contre, Pink, la chanteuse qui tweet « Kanye West est la plus grosse mère de la planète, vous pouvez me citer ?» J'ai envie de dire oui, alors d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des violeurs qui sévissent toujours dans l'industrie musicale ? Est-ce qu'il n'y a pas toujours des agresseurs sexuels, des tueurs, je sais pas, les frères Koch aussi, on peut en parler, tu vois. En fait, moi, mon problème, c'est juste que j'ai pas l'impression que ce soit Kanye West en fait qui ait fait gagner Trump. Mais je me rappelle toujours des 53% de femmes blush.
Hein, c'est lui qui le fera perdre, même, je pense.
Je sais pas, mais en tout cas, moi, je me rappelle toujours du 53% de femmes blanches qui ont voté pour Trump en 2016. Et je pense que s'il y a quelqu'un à collecter, hein, c'est plutôt elle. Enfin, et pour en revenir juste sur Kanye West, je pense qu'il convainc personne, en fait, maintenant. Et il en est un point où, tu vois, les gens qui sont anti-Trump vont pas dire « Hey, mais parce que Kanye West soutient Trump, moi aussi, je vais soutenir. » Enfin, non, c'est fini. Je pense que là, il en est juste au point où il se donne
c'est
un spectacle.
C'est pas Taylor Swift.
Voilà. La feuille qui ne meurt jamais. Pour moi, il joue juste les oncles Tom de l'extrême droite américaine maintenant, quoi. Enfin, il dévoile son ignorance, il perd sa crédibilité. Par contre, pour le coup, moi, je serais prête à prendre des billets pour le fight Lana Del Rey Azalea Banks, quoi.
En parlant de Trump, justement, cette semaine, on vous a demandé ce que vous pensiez justement de Kanye West qui allait au bureau ovale pour faire un bro hug avec Trump. Kanye West a l'habitude très chargé ces temps-ci, trop chargé peut-être même. Il est monté sur une table à une école d'ingénierie pour défendre Elon Musk. Il a pété le record de vues aussi pour une vidéo de hip-hop avec son clip I Love It avec les pumps. Ouais, bien sûr. Il a fait plus de vues en quelques semaines
que Despacito.
Pas que Despacito, mais que Ape Shit de Beyoncé et Jay-Z en plusieurs mois. Donc ça donne un peu la mesure du truc. Il a aussi quitté les réseaux sociaux à nouveau. Bref, une semaine dans la vie de Kanye West.
Tout va bien.
Et donc la semaine dernière, il était à la Maison Blanche pour déjeuner avec Trump. Et il a donné beaucoup de love au président américain.
And we're gonna have lunch, we're gonna talk.
Trump dans le chip, quoi.
Incroyable.
But I don't want to take. I don't want to put you in that spot. But...
No, I'm standing in that spot. I love this guy right here.
I love this guy right here.
I love this guy right here.
That's really nice.
And that's from the heart. I didn't want to put you in that position, you know, but that's from the heart. Special guy.
Special guy, special guy. J'aime bien, on dirait un vieil oncle, tu sais.
Et t'as tous les suckers derrière qui...
qui tapent des petites pattes dans le dos, en mode special guy, special guy. Kanye West a parlé du système carcéral américain qui doit changer, de la violence à Chicago. Il a demandé notamment la libération de Larry Hoover, chef de gang légendaire de Chicago, si je ne me dis pas de bêtises. Et puis il s'est plaint également de la position des démocrates américains à propos du racisme.
We have to release the love throughout the entire country and give opportunities. A lot of times it's just the overall lack of reparations that we at any given point we say, oh, this is racist, this is racist, this is racist, this is racist. The liberal will try to control a black person through the concept of racism because they know that we are very proud, emotional people. So when I said I like Trump to like someone that's liberal, they'll say, oh, but he's racist. You think racism can control me? Oh, that don't stop me. That's an invisible wall.
J'adore la dernière phrase. You think racism can control me?
Aïe, aïe, aïe.
Nobody can fuck with gay. Bref.
Putain.
Alors, vous étiez 250 à voter, donc on vous a pas vraiment laissé le choix. Hein. On vous a laissé le choix entre trash, très très trash, et Winter is Coming, parce que bon, les White Walkers...
Ah, il n'y avait pas d'iconique.
Non, il n'y avait pas d'iconique, non. On a été un peu sectaire. Vous avez été 9% à voter trash, 51% à voter très très trash, et 40% à voter Winter is Coming, parce qu'il y a beaucoup de fans de Game of Thrones dans la salle. Il y a eu des réponses marrantes. On a notamment Joe McGuffin, c'est un poton, on peut lui faire un petit big up,
ami du podcast,
qui a juste répondu en postant la photo de la casquette de Pete Davidson, Make Kanye 2006 Again. Je trouvais ça gaulerie. Il y a eu des réponses un peu plus empathiques. L'instagrammeuse Adeline Rapon qui nous répond: pour moi, le trash, c'est qu'ils ne sont pas pris en charge, parce qu'évidemment, on sait que Kanye West a des problèmes de bipolarité, des problèmes de manque de sommeil également, parce que dans le bureau ovale, il a dit qu'en fait il n'était pas bipolaire, mais que finalement il avait un problème de sommeil qui fait qu'il devenait un peu, qu'il vrillait un peu. Moi je trouve ça, pour sortir
iconique.
Un peu de... Personnellement, je trouve ça évidemment trash, et de plus en plus de mal à le défendre. Enfin, je le défends pas du tout, en fait, j'ai jamais défendu.
Tu l'as jamais défendu ?
J'ai jamais défendu Kanye West. Okay. Jamais défendu Kanye West. J'ai dit que j'arrêterais pas d'écouter ses albums et de consommer ses produits musicaux, mais je ne défends pas ses positions politiques, loin de là. Pour sortir un peu de l'indignation facile, il y a un article assez intéressant sur le site Vox, le site américain Vox. Ils ont interrogé un spécialiste en communication de crise qui s'appelle Eric Bernstein, et qui explique pourquoi en fait toutes ces polémiques d'ordre politique finalement ne font pas de mal à la marque Kanye West. Et la réponse du mec, c'est qu'en fait Kanye West n'a aucune influence sur les sujets qui
dont
font polémique et dont il se saisit. Kanye West n'est pas encore du moins, au cabinet de Trump. Kanye West n'a pas de prise sur les politiques d'immigration, sur les politiques économiques, et trucs comme ça. Et surtout, et inversement, ses positions politiques, finalement, ne se retrouvent que très peu dans sa musique ou dans ses Yeezy 2. Quoi. Quand t'achètes des Yeezy 2, t'es pas en train de te dire « Waouh, il y a marqué « Make America Great Again ». Donc finalement, il y a une sorte de... C'est quoi le contraire de porosité, déjà ? D'imperméabilité.
Le mur.
Oui, c'est ça, il y a une sorte d'imperméabilité finalement entre les conneries Kanye West dans le bureau ovale et la marque Kanye West. Ensuite, avec ce qu'il vient de faire là, j'ai l'impression qu'on se rapproche de plus en plus de la porosité. Voilà, c'est chaud. Dernière réflexion, c'est marrant, on vit dans un monde en 2018 où maintenant Kanye West est donc ouvertement pro-Trump et où Taylor Swift est ouvertement pro-démocrate. Je pense qu'il y a deux ans...
Darkest timeline.
Ça.
Comme disait un grand philosophe du 21e siècle, what a time to be alive. Voilà.
Alors, en parlant de rappeur afro-américain fatigant, François, c'est quoi le deal avec Drake et les femmes ?
Ouais, je commence à digérer en fait les 140 pistes de Scorpion. Non, il n'y a pas 140 pistes. Il y en a 25, mais c'est beaucoup. Je commence à digérer ces pistes-là de Scorpion, le dernier album de Drake. Cet album est beaucoup trop long, il faut qu'on se le dise. Mon morceau préféré, c'est Jaded. Alors, je vais vous poster une... En fait, on ne va pas mettre d'insert de Drake parce qu'on ne veut pas se faire striker ou se faire casser le bras par Adopi. Du coup, les seuls inserts de Drake que vous entendrez dans cette émission ne seront que des reprises.
Chantées à la bouche par...
par moi-même. Yes, I'm hurting, yes, I'm jaded. Most of these things I don't wanna say. I wanna be around while you chase. You wanna hear me up. c'est le R&B Drake, hein, c'est mon préféré, c'est le Drake mélancolique, c'est le Drake... C'est le Drake Tristoun.
Mais là, c'est comme c'est pas le vrai, c'est Freak.
Non, c'est un jeune artiste qui s'appelle O'Shea. O-S-H-E-A. Ah oui, c'est pas parce que c'est une reprise qu'il faut pas créditer le cas, mais lui donner un peu de love, tu vois. Elle est très bien, cette
reprise. Ne nous strike pas, s'il te plaît.
Non, parce que comme c'est une reprise et que lui-même il dit « J'ai pas le copyright du morceau », je pense pas qu'il va nous faire chier. Donc dans Jaded, Drake parle, donc c'est sur la face B, donc de la face R&B de Scorpion, il parle d'une femme avec qui il a une relation amoureuse et qu'il a ensuite larguée. Selon les dires de Drake, cette femme est devenue, cette femme l'a larguée une fois qu'elle est devenue un peu plus connue, et il dit que finalement elle l'a utilisée pour avancer sa carrière et devenir quelqu'un. Selon Genius, et selon les rumeurs reprises par Genius, cette femme dont il parle dans Jaded serait Georgia Smith, la jeune prodige anglaise du R&B. Qui est âgée de 20 ans et donc qui avait 19 ans au moment où elle aurait rencontré Drake, selon les rumeurs tout de suite. Bref, bon, à part le côté un peu calimero, nombriliste, en mode « Oh là là, je suis triste » du morceau, ça on aime en vrai. Il y a une phrase qui moi m'a fait un peu vriller. C'est quand il dit « Tu avais du potentiel, j'aurais pu le façonner ». Il dit ça en mode « You had potential ».
En mode Pygmalion quoi.
Ouais, en mode Pygmalion, c'est ça. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai eu une sorte de grand flashback, tu sais, et j'ai commencé à penser à toutes les fois où Drake avait dit des trucs comme ça, et je me dis, mais en fait, le mec a un problème. Le mec qui est un peu creepy.
Good girl.
Ouais, le mec est un peu creepy. Le rap est un genre de musique qui souffre d'un problème de misogynie. Je pense qu'on est tous
comme beaucoup
là-dessus.
De genres de musique, mais oui.
Ouais, mais le rap, ouais, quand même aussi grave, quoi. Je connais pas un rappeur masculin qui n'ait pas un lyrics misogyne, à part peut-être Kendrick, et encore.
Tu peux trouver un jeu.
Et Drake semble, je trouve, échapper à ce trope pour plusieurs raisons, parce que bon voilà, il est fragile, il chante, il est clair de peau, faut le dire, il est light skin, ça joue aussi dans sa perception, et le gars est canadien, et le gars sort de Degrassi, donc le mec, plus inoffensif que ça, a priori, tu meurs. Mais en fait, quand tu regardes bien, Drake, je trouve, est le vecteur d'une misogynie beaucoup plus insidieuse et beaucoup plus et tout aussi dangereuse finalement que d'autres rappeurs plus frontaux, comme j'en sais rien moi, Future, Lil Wayne, vous nommez qui vous voulez. Moi, je me souviens du morceau Marvin's Room, Fuck That Nigga, tu sais, où le gars appelle son ex alors qu'il est bourré et que la meuf est remaquée. Et il lui dit ouais, j'en ai rien à foutre que t'es un cum, je sais qu'en vrai tu veux qu'on soit encore ensemble. Le gars respecte pas les, en gros, les
boundaries.
Voilà, exactement, le mec ne respecte pas les limites, le mec ne respecte pas finalement
le move on
et puis le consentement, on en parle ou pas. Hotline Bling, bien sûr. Il parle d'une femme qui maintenant qu'elle est plus avec lui, elle a mal tourné. Tu sais,
avant elle l'appelait sur son téléphone.
Ouais, tu vois, en
t'étais
mode.
T'étais sympa, tu restais chez toi.
Voilà, il dit ouais, avant tu restais chez Watt et tout, t'étais tranquille, tu faisais ménage. Puis maintenant tu portes des vêtements courts et tu vas en boîte. Et évidemment, il y a le gros tube Hold On, We're Going Home, où il dit Cause you're a good girl and you know it. Et en gros, le mec dit voilà, il voit la good girl en elle. Qu'est-ce qu'une good girl d'ailleurs? Et à qui il s'adresse. Et lui, il le voit. Et finalement, le mec dit qu'il connaît mieux les femmes que elles-mêmes
se
connaissent, quoi. Donc voilà, moi je trouve que Drake a un peu le complexe du sauveur. Il est obsédé par cette idée de contrôler les femmes, de les façonner, en fait. J'ai l'impression qu'il a besoin que les femmes soient dépendantes de lui, affectivement, financièrement. Et
c'est d'ailleurs pour ça que ça n'a pas marché avec Rihanna, non? Elle pas besoin de lui,
mais
quoi.
Mais moi ça me tue que ce mec là soit sorti avec des meufs comme Rihanna ou Serena Williams, qui sont des modèles de femmes justement plutôt fortes et indépendantes. Et bon, ben...
après on peut se demander si c'est de la posture ou si c'est vraiment ce qui...
Ben, le problème, c'est que, on va en parler tout à l'heure, ça se retrouve aussi dans sa vie, dans sa vraie vie, quoi. Georgia Smith, si les rumeurs sont vraies, ils sont sortis ensemble l'an dernier, en 2017. Donc Drake avait, si je dis pas de bêtises, 30 ans, et elle en avait 19. Non, c'est ça, 19. Donc bref, on en parlera un petit peu plus tard, si tu veux, Mel, parce que je sais que t'as une fixette Millie Bobby Brown. Au-delà de ce côté un peu Pygmalion, Drake juge les femmes sur leur comportement et leur sexualité. Et ça, c'est un peu emmerdant. il joue le jeu de la respectabilité, de la good girl, comme on disait, de la princesse docile et virginale, presque. Enfin, à la fois virginale, parce qu'elle doit...
Mais c'est quoi, alors, une good girl, pour lui? C'est une fille qui reste à la maison, qui parle à personne?
Ouais, c'est une meuf qui...
C'est une meuf chiante, quoi.
C'est une meuf qui est bonne au pieu, mais qui n'a pas eu trop de partenaires sexuels, parce que sinon, c'est problématique, tu comprends, elle est moins respectable. C'est une meuf qui ne vit, en fait, qu'à travers lui.
Mais est-ce qu'il en a déjà rencontré? Parce qu'est-ce qu'on a des exemples de noms, tu vois, alors Eldre, en fait, qui dit c'est une good girl forever.
Dans une enquête absurdement détaillée du site DJ Boost, que je vous recommande si vous ne connaissez pas, il y a un journaliste qui a relevé toutes les meufs, nommées ou pas, que Drake a name-droppées ou mentionnées dans ses morceaux. Vous savez combien il y en a?
Aucune idée.
Allez, Nitachi.
75
En plus. Plus.
Plus.
Bien sûr, plus. Attends, c'est Drake. 129.
129.
Et l'article s'arrête à More Life.
Ah ouais, donc et on a 200 presque là, tu vois.
Il y en a d'autres.
Putain.
Donc ouais, le profil de la good girl, je dirais
c'est pas
c'est
un good boy lui. Hein.
Ouais, non, mais voilà, c'est la meuf qui à la fois, tu vois, est très sexuelle, mais que pour lui, qui est indépendante, qui a fait des études, qui est pas conne, mais qui n'est pas non plus au-dessus de lui. Voilà, c'est un peu la meuf pas très indépendante. Je vous cite un journaliste qui s'appelle Martenzie Johnson, qui a écrit un article dans The Undefeated, c'est le nom du site. Il dit Drake est autant un féministe que Rachel Dolezal est une femme noire.
J'ai vu ça. C'est parfait.
Toute sa discographie est ancrée dans la politique de respectabilité. Il n'accepte les femmes qu'en fonction de leur tableau de chasse.
Le thé est chaud. Oui.
Ouais, le thé est brûlant. Ça c'est Drake. Il enferme les femmes, j'ai l'impression, dans une sorte de vision fantasmée et totalement masculine et paternaliste. Est-ce que vous savez que Drake a un dressing rempli de sacs Hermès pour la femme de sa vie qu'il n'a pas encore rencontrée?
J'ai vu ça.
C'est une interview en fait pour le Hollywood Reporter qu'il a donné en 2017.
C'est un peu triste. Hein.
Oui, c'est légèrement triste, mais légèrement creepy surtout. En fait, Drake collectionne les sacs Hermès Birkin. Donc là, c'est une ligne particulière de sacs Hermès qui sont particulièrement chers.
Très demandés. Et particulièrement y a des listes d'attente.
Dur à trouver, exactement. Mmh. Et en fait, il les collectionne pour sa femme qui ne le connaît pas encore. Et donc il a une pièce remplie de sacs Hermès qu'il va offrir au moment où il rencontrera sa meuf. Il sait même pas si sa meuf aimera les sacs Hermès ou rien, mais il va lui offrir au moment où il la rencontrera.
C'est déprimant.
Ouais, je trouve ça creepy as fuck. Donc voilà, Drake est un mâle toxique, Drake est un mâle paternaliste, Drake est problématique.
Mais c'est marrant parce qu'à côté, il va te sortir une chanson comme la dernière.
Nice for What.
Nice for What, voilà.
Ça coûte pas cher. Hein.
Ça coûte pas cher et c'est toujours cool de mettre Issa Rae.
Et puis de toute façon, il a certainement pas écrit les paroles.
Attention. La police arrive. Je trouve que ce problème de Drake a un peu culminé cet été, notamment avec deux exemples récents. D'abord, évidemment, la polémique avec Pusha T, vous savez, et l'histoire de son gamin.
Gamin caché.
La sortie de son album, donc Blue Scorpion. Il y a une review, une chronique assez cool du site Pitchfork, où en gros, je vous la résume. Mais le mec dit que bon, Drake se donne le bon rôle dans le beef, mais par contre, il se plaint de devoir verser une pension alimentaire à la mère de son enfant. Donc ça, c'est sur le morceau I'm Upset où il dit can go 50-50 with no hoe. Le mec traite la femme de la mère de son
fils. Mais en même temps, tu les veux pas indépendantes, mec.
Ben ouais, voilà, tu vois le paradoxe.
Le morceau est horrible, mais c'est peut-être le morceau de 2018 de Drake que je préfère.
Tu trouves? Moi, je trouve pas que c'est un très bon morceau. Rien que sur Scorpion, il y a beaucoup de très bons morceaux.
Je trouve qu'il reste en tête.
Ouais, non,
Scorpion, je l'ai écouté deux fois. J'ai pris deux trois morceaux qui m'ont bien plu, mais
ouais. Jaded, Final Fantasy aussi.
Moi, j'aime bien Non-Stop.
Non-Stop, le morceau avec Jay-Z aussi, le couplet de bref. Ce que le mec de Pitchfork dit, en gros, pour résumer l'album, lorsque t'écoutes un peu le contenu, c'est que voilà, on a là un musicien au sommet de son art, mais on a un jeune père immature, sexiste, et que pour finalement apprécier l'album, faut surtout réussir à dépasser la toxicité du personnage. Et je trouve ça assez révélateur. Elle est assez bien la chronique. Le deuxième truc qui me fait tiquer dans la volonté de Drake de contrôler les femmes ou d'être ouais, c'est ça, de contrôler les femmes, c'est son amitié du coup avec Millie Bobby Brown, l'actrice qui joue Eleven dans Stranger Things, qui est âgée de 14 ans, qui a défrayé la chronique aussi cet été. Je pense
tu peux
pas...
résumer, parce que moi j'ai suivi ça de loin.
Millie Bobby Brown sur un tapis rouge, elle a été. On lui a demandé si elle connaissait des gens célèbres avec qui elle était en contact, et en fait, elle a dit ah oui, Drake, c'est mon meilleur ami. On s'envoie plein de messages. Il me donne des conseils sur mes petits copains, et tout le temps, on s'envoie plein de messages. Il me dit que je lui manque trop, et je lui dis que moi aussi, il me manque trop, et que j'ai trop envie qu'on se voie, et lui aussi. Donc il y avait un côté vraiment fangirl que je trouvais assez mignon, mais c'est vrai que quand tu te mets du côté de la personne en face qui est un adulte de 30 ans bien tassé, c'est envoyer des messages à une gamine de 14 ans et lui donner des conseils. Alors, sachant que Millie Bobby Brown a des parents problématiques qui la mettent vachement en avant, la laissent aller à des soirées toute seule, enfin il y a vraiment un côté un peu Lindsay Lohan qui fait assez peur pour son avenir, mais voilà, ouais, ça a défrayé la chronique effectivement, parce que il y a quand même un côté un peu chelou, quoi.
Alors à titre perso, je pense pas du tout que Drake ait une relation ambiguë avec Millie Bobby Brown.
Tu peux pas savoir, tu n'es pas dans leur texto, tu sais.
Alors là, franchement, Drake peut...
Sachant que le mec, quand même, il y a quand même un truc avec les mineurs, quoi.
C'est le côté problématique, mais je pense que, enfin surtout, enfin je pense pas que ce soit le Drake aime les meufs thick. Drake aime les meufs plutôt noires, light skin. Enfin bref, je vais pas faire une psychologique comptoir, mais je pense pas que Drake veuille pécho Millie Bobby Brown.
Moi je trouve ça chelou quand même.
C'est chelou parce que Drake est un homme de 31 ans et Millie Bobby Brown une meuf de 14 ans. Et on connaît donc les stories de Drake, donc Georgia Smith. Donc il avait 19 ans au moment où il l'a rencontré. Il a également sorti avec Hailey Baldwin,
la femme de
Justin. Alec, et la copine maintenant de
la femme. Ils se sont mariés cet été.
Pardon.
La wife
de, comment il s'appelle,
Justin Bieber,
merci. On l'a également soupçonné de sortir avec Bella Harris, qui est une jeune mannequin.
Ouais, la petite minette de 18, c'est ça,
19 ans, ouais, 18-19 ans. Sachant que Hailey Baldwin, il l'avait rencontré, il la connaît depuis avant qu'elle soit majeure, hein. Donc voilà, il y a un côté. Alors je dis pas qu'on est.
Track record.
Ouais, je dis pas qu'on est dans du Me Too, mais c'est quand même borderline. Disons qu'il y a une disparité des pouvoirs entre un homme beaucoup plus.
Dans
vieux,
20 ans, on va avoir un dossier qui va sortir.
Moi, je pense pas qu'il a jusque là, parce que le gars a tellement l'embarras du choix. Mais ouais.
C'est pas une question de choix. Hein. Les prédateurs, ils sont pas. R. Kelly, il a le choix, hein, mais qu'est-ce que tu crois ?
Ouais. Non, c'est vrai. Bref, de toute façon, même s'il se passait rien entre eux, je comprends que ça fasse polémique avec Bobby Brown, parce que voilà, il y a une disparité de pouvoir en fait entre un homme beaucoup plus vieux et beaucoup plus riche et célèbre, tout ce que tu veux, et une meuf qui fait la femme girl. Il y a forcément, même inconsciemment, un rapport de prédation, quoi. Et donc, je trouve ça marrant que ça se retrouve à la fois dans sa musique et dans sa vie.
Juste sur ce point-là, je sais pas si ça apporte beaucoup d'éléments, mais c'est quand même un grand classique que les jeunes du show business qui ont 13, 14, 15, 16 ans traînent avec d'autres stars qui ont 20 ou 30 ans de plus qu'eux et disent c'est mon ami.
Ouais,
et justement, il y a eu des rumeurs, notamment à l'époque de Michael Jackson, mais Michael Jackson, il avait ouvertement des amis adolescents. Ça rend pas la question plus simple.
Je crois que c'est un sujet pour un autre podcast.
Mais voilà, c'est ça que je veux dire.
Il y a eu un procès.
L'exemple qui me vient en tête, c'est Michael Jackson. Mais
la célébrité, ça rend précoce, tu vois. Si t'es célèbre à 16 ans, à 16 ans, tu vas traîner avec des gens.
Ça rend précoce, mais il y a toujours, comme tu disais, des mécanismes en fait de pouvoir.
Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que je veux pas aller jusqu'à dire ah ça y est, Drake, Millie Bobby Brown. Franchement, je trouve
non,
ça
mais
peu,
on
peu probable,
peut trouver quoi. Ça quand même chelou.
Ouais, grave. Je comprends qu'on trouve ça chelou, surtout vu le tableau de chasse du mec. Bref, moi j'aime Drake parce que en tant que homme noir fragile et sensible et en in touch with my feelings, je trouve que c'est facile. De...
La tête de Kevin. Quoi.
Quoi, t'es dubitatif, c'est ça?
Non, pas du tout.
Le gars, il essaie de m'exposer, là.
J'ai rien dit.
Je trouve que c'est facile de s'identifier à Drake. Drake, il a offert un... la masculinité noire, elle est différente de la masculinité des hommes blanches, des hommes blancs. Je pense qu'on est... On a des injonctions identitaires et culturelles à ne pas justement montrer de sentiments ou trucs comme ça. Je pense que Drake a offert un miroir, c'est pas le premier, mais c'est un des plus puissants qu'on a aujourd'hui. Il a offert un miroir en fait à des millions d'hommes noirs, moi y compris, pour exprimer leur sensibilité et pour boire des verres de Jack en badant sur leur ex à 3h du mat. Mais depuis Scorpion, justement, l'album dont je vous parlais avec J.D. et d'autres, ainsi que les autres polémiques, j'ai quand même une sorte de dissociation avec le personnage. Je retrouve plus la l'immaturité émotionnelle du mec et la toxicité du mec commence un petit peu à m'atteindre. Je retrouve plus la sincérité qui a fait le succès de Drake sur notamment son album classique Take Care, où voilà, on disait putain, le mec c'est incroyable, il est capable de vraiment se disséquer lui-même et dire vraiment ses plus grandes failles, il les expose au public, c'était génial. Là, je trouve qu'il est un peu hypocrite, tu vois, quand il dit ouais, voilà, I set up my role as a good guy, tu vois, genre je suis le gars qui a pris the high road, mais derrière, en fait, il a un enfant caché et puis il se plaint de donner des machins. Enfin, je trouve c'est un peu un bolos. À titre personnel, on est en 2018.
On va toujours danser quand il y aura une chanson dans le club.
Je m'arrêterai jamais. Malheureusement, ouais, je vais pas annuler Drake, hein, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, jusqu'ici, j'étais toujours très en ligne avec Drake, mais depuis un moment, je sais pas. Voilà.
Tu parlais de Drake et la blackness. Il y a un épisode d'un podcast américain qui s'appelle The Nod.
Ouais, je l'ai écouté celui-là.
On mettra en lien où ils finissent par avoir une discussion. Est-ce que Drake est good for the people? Est-ce que Drake est bon pour les noirs? Et il y a un truc qui est intéressant sur la musique qu'il fait, c'est que ça peut paraître un peu ironique, mais il arrive à mettre des, entre guillemets, des noirs d'origine différente d'accord musicalement. C'est-à-dire que forcément, en faisant des trucs un peu à la sauce nigériane, un peu la Jamaïque, un peu Londres, un peu Atlanta, un peu New York, etc., forcément, il rassemble des gens, quoi. Ouais, donc rien que pour ça, on continuera à danser sur Drake.
On continuera, et je continuerai également à écouter des gros morceaux. On est en 2018, on est un an, presque jour pour jour, enfin peut-être un mois de plus après Me Too. Je me demande juste si, je dis pas qu'il faut annuler Drake ou que ce soit, je me demande juste si Drake est la star du rap dont on a besoin ou dont les femmes ont besoin. Alors, n'étant pas une femme, je ne vais pas répondre à ces questions.
Tout le monde est problématique, François. On ne trouvera jamais de héros parfaits, malheureusement.
C'est vrai, mais puisqu'on est dans un podcast où on est des gros SJW et qu'on passe notre temps à dire un tel est problématique, est-ce qu'il faut annuler Drake? Bref, je vous laisse sur ces réflexions. Une dernière chose, lisez l'article intitulé « Sorry, Drake's obsession with good girls is sexist ». C'est un article d'une journaliste qui s'appelle Tyra Hairston sur un site qui s'appelle The Splinter. Il est super intéressant et il résumera ce dont on a parlé là dans le podcast mieux que j'ai pu le faire. Il est très cool.
J'en doute.
Alors, Kevin, tu vas maintenant nous expliquer pourquoi tous les ans, à la période de Noël, je regarde Un prince à New York alors que c'est pas un film de Noël.
C'est ça, je vais me charger de cette mission. d'essayer d'un peu de savoir pourquoi Eddie Murphy pèse. Et il y a une première chose qui me vient à l'idée, tu l'as mentionné, c'est, tu as parlé des affiches dans le métro, moi c'est la bande annonce d'un film.
Vous connaissez Miami ?
Non.
Vous allez adorer.
C'est vous les Français ?
Oui, de Belleville. Ravi de vous rencontrer.
Chez nous, tu n'es pas un vrai flic. Toi, t'es là pour observer, ok ?
Est-ce que t'es dingue ? Tout est faux de moi ou quoi ?
Donc, j'ai pas le droit d'avoir un gun. J'ai ni le droit d'interroger des témoins. Vous profitez ?
Yeah.
Qu'est-ce que je peux faire, alors ?
Rien du tout.
Vos clés de voiture.
Du grand cinéma.
J'ai entendu le rire d'Omar Sy, donc c'est bon.
Mais non, pas du
Elle est là, ma voiture.
C'est ça ta caisse ? Même deux flics à Miami, on va pas le faire, en fait.
Alors, la bande-annonce, c'est le flic de Belleville, de Rachid Bouchareb, qui sort cette semaine sur vos écrans. Vous aurez entendu déjà... Enfin, la bande-annonce en elle-même est déjà remplie de références à L'Arme Fatale, à Deux Flics à Miami, Rush Hour et compagnie.
Les buddy movies, quoi.
Ouais. Avec des copes, mais avant tout, ça ressemble à ça.
Ah, si.
Allez là.
C'est Crazy Frog, c'est ça, hein?
Alors, pour remettre les choses à plat tout de suite, le morceau s'appelle Axel F. Le morceau s'appelle Axel F.
Oui, ah oui, d'accord, Axel Follet, ok, d'accord.
Axel Follet.
Tu croyais quoi?
Rien, je crois que c'était... Parce que Crazy Frog, le son de Crazy Frog s'appelle aussi
Mais arrête
Axel
de parler
F.
de Crazy Frog.
Ok, désolé.
Non, en fait, donc Crazy Frog a repris il y a quelques années ce morceau d'un compositeur allemand qui s'appelle Harold Faltmeyer. Mais je pense que ça lui a fait à la fois du mal parce que la version de Crazy Frog est assez insupportable, mais en même temps ça lui a fait beaucoup de bien parce que en droit d'auteur,
en termes de royalty, le gars est bien.
Alors moi j'ai téléchargé la sonnerie.
Non, pas toi.
Shame.
Ça lui a peut-être fait des
chants.
Et puis il en a fait une autre musique de film qui a pas trop mal marché, c'est celle de Top Gun. Du coup, j'ai revu mes classiques. pour vous parler d'Eddie Murphy. Deux œuvres en particulier, Delirious, un stand-up de 83, et bien évidemment Le flic de Beverly Hills de 1984. Je pense que à bien observer Eddie Murphy et la façon dont il est reçu ici, il y a des choses intéressantes à dire. Déjà, ce que représente Eddie Murphy pour moi personnellement, c'est l'année 2010 en fait, c'est une année un petit peu de déprime professionnellement, je sais pas trop ce que je veux faire, je me fais chier à l'école de la santé et donc je deviens un nerd de stand-up et je tombe sur Eddie Murphy.
L'origin story de Kevin.
Exactement, la révélation
la préquelle.
La révélation incroyable.
On fera la préquelle après le film. Hein.
Mon coloc se souvient encore qu'il entendait des bruits bizarres, en fait, je convulsais de rire. Et donc voilà, Eddie Murphy, c'est un mec qui commence dans le showbiz au tout début des années 80 dans une émission culte qui s'appelle le SNL, Saturday Night Live. Il est très jeune, il a 18 ans. Le show existe encore en fait, c'est un show légendaire parce que ça fait plus de 40 ans.
Mais c'est pas bien maintenant. Enfin,
il y a des hauts et il y a des bas, voilà. mais c'est quand même intéressant que ça continue. Enfin, on leur doit quand même Billy Crystal, Will Ferrell, Tina Fey, Chris Rock, Bill Murray, Maya Rudolph,
Amy Poehler,
Sarah Silverman, Ben Stiller, Adam Sandler, etc.
Adam Sandler, on aurait pu s'en passer.
Mais ouais, mais il est super, il est super big en fait.
C'est
mais
vrai, c'est
bref, Eddie, il arrive au début des années 80 au SNL et redonne un second souffle, une seconde jeunesse à l'émission qui en fait aurait pu s'arrêter à cette époque-là. Et il va atteindre très rapidement une immense popularité au niveau national. Juste pour vous donner un exemple, il a présenté le show alors qu'il était dans le casting encore du show, c'est-à-dire que chaque émission ils reçoivent une superstar, voilà, il y a un host qui vient présenter l'émission et le casting travaille pour le host. Eddie Murphy faisait encore partie de l'émission,
il
était déjà tellement une méga star qu'il venait déjà en présentateur de l'émission,
ouais.
Ce qui devait mettre une ambiance un peu bizarre dans l'équipe. Si ça vous intéresse, YouTube est une mine d'or. Il y a des sketchs par exemple comme White Like Me où il se met en whiteface pour aller un peu explorer le privilège blanc. c'est priceless. Mais moi, surtout, ce qui m'a marqué de l'époque du SNL, c'est un sketch qui s'appelle First Black Astronaut, le premier astronaute noir. Donc en fait, ça commence sur un plateau de JT. Et il y a une speakerine blonde qui explique que le premier astronaute noir a été annoncé. Et pour en parler, on reçoit Eddie Murphy. Et Eddie arrive remonté sur le plateau en disant qu'il vient d'entendre deux blancs qui parlent entre eux, et il y en a un qui dit « Ouais, c'est quoi cette histoire ? Pourquoi c'est important d'envoyer un astronaute noir ? On envoie déjà des singes depuis 1962. » Donc, Eddie Murphy en a marre, et il décide de répondre.
Now, I figured that that's the last straw, and it's time to point something out to you people. Black people do not look like monkeys. White people look like monkeys.
Et donc, après ça, il fait venir le caméraman blanc, lui soulève son pull, expose son torse velu, puis compare au sien de torse, qui est complètement imberbe. Et donc il dit ça. Donc là, il montre son torse. Lisse, naturel,
natural.
Humain.
Human. Get out of here.
Donc il le renvoie sèchement à sa place. Et puis il continue sa démonstration en concluant que voilà, il faut arrêter de dire ça. Et puis il donne une banane à la présentatrice et il se casse. Ça, c'est en 1982.
Donc le 2018, je suis pas sûr.
N'empêche que le mec a des balls pour dire ça sur un plateau tout seul.
Et que ce soit diffusé, quoi.
Voilà, donc ça c'est l'esprit un peu provocateur d'Eddie Murphy. C'est les années 80, c'est de l'humour. Mais en fait, vraiment... Delirious, donc son premier vrai stand-up filmé, je l'ai revu pour la première fois depuis des années. Et en fait, je l'ai testé sur ma copine qui ne connaissait pas le passé de roi du stand-up d'Eddie Murphy. Alors, verdict, d'abord beaucoup de malaise. Ça commence par une bonne quinzaine de minutes d'homophobie médiévale.
Très, très frontal, quoi.
Ouais. Genre, c'est pas des sous-entendus.
Ouais, non, la
blague du mec, c'est « Eh, vous savez quoi, les gays ? Ils sont gays !» Tu vois
Depuis, dans les années 90, il est revenu dessus, il explique qu'il a 21 ans. Il s'est excusé donc, pour tous ses propos mal informés, haineux, au sujet de la communauté LGBT. Mais pourquoi donc ça n'a pas bien vieilli, mais qu'est-ce qu'on retient d'Eddie Murphy ? D'abord, une attitude. Le mec, justement, comme on disait, il a 21 ans, il arrive avec une espèce de confiance en lui, dans une espèce de combinaison en cuir rouge.
À la Michael Jackson.
Complètement moulant, exactement, ouais. On est dans les années 80.
Moi, je mate le spectacle, et ensuite... Je regarde les dates et les trucs comme ça sur Wikipédia et je me rends compte que c'est son premier spectacle. Et j'étais en mode quoi ? J'étais quécho. Et je vois aussi dans la foulée que le mec avait genre 21 ans, 22 ans. J'étais sur le cul.
C'est assez hallucinant. Donc, déjà, il y a ça, il y a cette attitude, il y a ce bagout. Et puis, il y a un talent indéniable. Alors, à l'époque, ça choque aussi, ça met les gens très mal à l'aise parce que y a beaucoup de profanité, comme on dit. Il dit plus de 200 fois le mot fuck et les dérivés de fuck en une heure à peu près. Ça fait beaucoup.
À cette époque-là, c'est étonnant, c'est ça ?
Ouais, à cette époque-là, il y a déjà des gens qui disent fuck, mais à ce niveau-là.
À cette époque-là, t'as Seinfeld qui fait son stand-up gentil, il n'y a pas de gros mots.
Déjà, il y a ça. Et puis surtout, Eddie Murphy, on le connaît en direct à la télé sur les chaînes hertziennes, on dit pas du tout fuck. Donc il faisait des choses un peu inoffensives, des chansons, des trucs comme ça. Donc les gens se disaient, bon, on va aller voir Eddie Murphy avec notre enfant. Et en fait, non.
D'accord. Il y a pas des OGs comme Richard Pryor qui ont commencé déjà à jurer sur scène et tout.
Bien sûr qu'ils le faisaient déjà, ouais. Mais pas à la télé, le samedi soir.
D'accord.
Eddie Murphy le faisait pas non plus. D'ailleurs, on peut toujours pas dire fuck aujourd'hui au SNL. Ouais. Mais par contre, sur scène, il y avait vraiment une espèce de surprise des gens qu'il avait connus par la télé.
D'accord.
Et qui découvrent ça.
Ok.
Il y a un talent indéniable, c'est plus qu'un imitateur en fait. Le mec a des véritables talents de chanteur, donc il reprend des pop stars, des grandes stars des années 80, et ses imitations sont parfaites parce qu'il les a perfectionnées au cours du SNL.
And whatever James is saying is some real heavy shit to James.
Ah, c'est James...
James Brown.
James Brown, ah, c'est ça.
At the end of every sentence, he ended off with... He meant that shit that he just said, boy. Everything is a... You get mad, you start putting the needle back saying, what the fuck did I just miss?
Seven and the people say...
Son imitation de Michael Jackson aussi.
Elle est incroyable, la
That's
voix.
A James Brown
il a,
lyric.
Il a fait des albums de musique.
He wrote that shit.
Très mauvais.
He was writing a song, so I need a word here. Hey! That's good.
Et puis il y a aussi tout un côté très attendrissant, parce que même s'il est déjà jeune, il y a déjà une forte nostalgie. Il parle très bien de l'enfance. Il en parle avec presque de la naïveté, en fait. Quand tu parlais de Drake de naïveté tout à l'heure, à cette époque-là, donc Eddie Murphy, il a une petite vingtaine d'années. L'enfance, évidemment, il a eu une enfance pas facile. C'est un sujet hyper important pour lui, et il fait tout ça sans aucun pathos. C'est sur Netflix ou même sur Spotify en audio. Donc voilà, c'est un héritage assez massif sur le stand-up aux États-Unis et même au niveau international. C'est pas moi seulement qui le dit. Chris Rock, donc à l'occasion des 40 ans du SNL, il racontait comment Eddie Murphy avait changé sa vie lorsque lui il était enfant. Qu'en fait, il découvrait que l'humour, la comédie, ça pouvait être une carrière, ça pouvait être un métier, on pouvait en faire quelque chose. Et il conclut en disant que on annonce tout le temps le nouvel Eddie Murphy. Martin Lawrence, c'est le nouveau...
C'est
le prochain Eddie Murphy.
Il y a longtemps, quoi.
Ouais. Non.
Chris Rock, lui-même, on l'a annoncé comme le prochain Eddie Murphy.
Non plus.
C'est qui,
Kevin
le
Hart.
Ok, d'accord, Kevin Hart.
Et non, non plus.
Celui de maintenant, ce serait qui, genre, par
exemple ? Justement, on y arrive, mais Kevin Hart, commercialement.
Ah, en termes de succès financier.
En termes de succès commercial,
ce mec, c'est pas drôle.
Mais il fait énormément de films en ce moment. Ouais. Il a un film qui va jamais sortir ici, là, avec Tiffany Haddish.
Ouais. Et puis il va faire le remake américain de Intouchable.
Ouais. C'est la conclusion.
Avec
Brian tu lui as sucré sa conclusion.
Ah, désolé.
Je sais plus ce que je disais. Ouais, on annonce tout le temps le prochain Eddie Murphy, et il dit tout simplement qu'il n'y en aura pas. Et pourquoi il n'y aura pas de prochain Eddie Murphy ? Justement. Le succès au cinéma, le succès qu'il a rencontré au cinéma à travers, pas seulement, mais déjà le flic de Beverly Hills. Juste pour vous donner une idée, c'est le plus grand succès commercial de l'année 1984.
Une très bonne année.
Une excellente année, Mélanie. Il est premier devant Ghostbusters, SOS Phantom, Indiana Jones et Le Temple Maudit, Les Gremlins et Karate Kid. Donc,
que des films qui sont restés dans l'histoire.
Ouais, année de gros films culte. Ouais. Et donc, cet énorme succès fait de lui déjà un géant. Donc, il a connu des échecs, parce qu'évidemment, prise de risque, mais il a fait des choix commerciaux qui ont pesé. On y reviendra un petit peu plus tard. De quoi parle le film ? De quoi parle le film de Le Flic de Beverly Hills ? Bon, vous, si vous l'avez pas vu, c'est très classique. Hein. C'est un flic qui a un ami qui est assassiné au début et donc il va enquêter dans les beaux quartiers de Beverly Hills, alors qu'à la base, il vient de Détroit et que c'est un peu plus la zone. Donc il y a ça qu'on voit comme opposition qui est assez drôle. L'impact est massif aussi parce que en termes de, justement, tu parlais, Mélanie, tu sais, des buddy movies, de ce genre de films-là, les films qui vont dans les années 80, 90, même les années 2000, être des comédies mélange action, vont toujours essayer d'atteindre cet excellent cocktail qui rend Le Flic de Beverly Hills super, super rythmé. Et puis, le film n'a pas seulement un impact à venir, il y a aussi des références. Il y a une scène, même si ça reste une comédie, que ce n'est pas un film particulièrement
intelligent. J'espère que tu vas parler de la scène de l'hôtel.
Non, je pensais plutôt à la scène où il découvre le commissariat de Beverly Hills et il s'embrouille avec un flic qui le frappe. Et il se défend et ça, c'est une sorte de rappel à un film de 1967 ou 1968, Dans la chaleur de la nuit, avec Sidney Poitier, qui était flic lui-même, qui était giflé par un flic, et il répondait, ça avait choqué les gens. Et donc voilà, là c'est un peu le change une vingtaine d'années plus tard où on en est, c'est intéressant. Et puis Le Flic de Beverly Hills aussi, ça lui a permis de faire beaucoup trop de films.
Les années 2000 ont été difficiles. Hein.
Même 90. Moi, j'ai vu en VF au cinéma avec mon papa en Martinique Le Vampire de Brooklyn.
Ouh.
Je ne vous recommande pas.
J'aime bien parce que c'est la même structure de titre à chaque fois. Tu vois, Le Flic de Beverly Hills, Le Vampire de Brooklyn.
Un concept, un lieu.
Les titres en vrai sont peut-être pas les mêmes, tu vois.
Ouais. Mais les Français savaient comment les vendre, du coup.
Et puis, un dernier truc sur l'héritage de ce film, c'est. La figure du commissaire en colère. My blatant disregard for proper procedure. You damn right, wise ass. The mayor called the chief called the deputy chief just chewed my ass out. You see, I don't have any bit of it left, don't you? You're a good cop. You got great potential, but you don't know every fucking thing. And I'm tired of taking the heat for your ass. Ouais, le chef de police est toujours noir et il est toujours vénère contre les héros qui ont foutu la merde dans le quartier.
I'm too hot for this shit.
Ouais. C'est exactement ça.
Vous allez me faire niquer par ma hiérarchie, etc.
Ils l'ont monté à un niveau assez élevé, ça. Mm. Ça a été repris, par exemple, en France, à l'époque du Jamel Comedy Club. Il y avait eu un sketch comme ça où il faisait, je pense que c'était Jamel Debbouze et Thomas Njijol qui faisaient Callaghan. Et voilà, ils reprenaient ça mot pour mot, un peu adapté à la française. Et puis le dernier truc, c'est la façon dont on reçoit Eddie Murphy en France. La voix d'Eddie Murphy, c'est une des plus reconnaissables, en fait.
Philippe ! Philippe, je savais que c'était toi. Il m'a dit que non, tu viendrais pas, mais moi je savais que c'était toi, Philippe. Ça va,
mon pote. Mec.
Mais je te dis que c'était Philippe, connard. Salut, Philippe. Embrasse-moi, mon lapin.
Fous-moi la paix.
Fais pas ça, Philippe.
J'ai vu François lever les yeux au ciel.
Non, non,
force.
Pas du
tout. Si. Oui, donc l'accent Eddie Murphy, faut en parler. Plus que des accents antillais ou des accents africains, je mets beaucoup de guillemets, en France, ce que j'ai surtout rencontré, c'était l'accent Eddie Murphy. Mmh. Des mecs que je connais pas en soirée et qui me voient et qui me font hey « Eh mec, ça va ouais ? Ouais mec ?
Ça va mon frère,
ça va mon frère ?
Tu veux filmer de la ganja ?»
Micro-agression, bonjour. cette
non.
VF, qui en fait de qualité, nous vient d'un monsieur qui s'appelle Med Hondo.
Qui est aussi l'âne de Shrek.
Qui est bien évidemment l'âne de Shrek.
Parce que Eddie Murphy était l'âne de Shrek aussi en VO.
Eddie Murphy dans la version originale, la version originale est l'âne de Shrek. Mais il est aussi assez souvent Morgan Freeman. Il a fait Donnie Glover. Enfin, il a fait beaucoup de mecs assez cool.
Il se spécialise.
Il a fait Rafiki aussi dans Le Roi Lion.
Non, trop voilà. Bien.
Bien sûr, t'as pas reconnu.
Non.
Le mec, c'est une légende.
On dit que je suis la voix française d'Eddie Murphy. I know it looks good and
some of y'all like pork chop. Je sais que ça semble bon et certains d'entre vous aiment les côtelettes de porc.
J'ai doublé dans beaucoup de films dont je peux pas me rappeler le nombre exact.
Toujours été très drôle, Bruce.
Shrek, il y a quelque chose sur elle que tu ne sais pas. De mon temps, les enfants avaient pour habitude de passer du temps avec leur famille. Ils mettent tout droit à vos vaisselles,
Mais en vrai, ce mec-là, Med Hondo, il est blanc ou il est noir ?
Alors, il a une histoire passionnante. C'est un grand monsieur, il a plus de 80 ans. Il est né en Mauritanie. Il est arrivé en France à l'adolescence, à Marseille. Il a fait plein de petits boulots. Il s'est intéressé au théâtre, au cinéma. Il est devenu acteur, réalisateur. Et il est super militant, en fait, dans ce qu'il fait.
Sérieux ?
Ouais. C'est assez incroyable, en fait. Il y a une interview d'un média mauritanien qui s'appelle Kasataya. On vous mettra le lien, en fait, il fait une longue interview, il revient sur sa vie. Parfois, lui-même, en fait, remet en question les choix d'Eddie Murphy, mais il est bien conscient que le succès d'Eddie Murphy,
ça lui profite, c'est son succès à lui, ça finit par lui profiter. Et en fait, là où ça devient vraiment problématique, c'est que ça devient en fait la voix des Noirs en France et que ça ne correspond à rien du tout. C'est cet accent, ça correspond à aucune réalité géographique, historique ou quoi que ce soit.
C'est vrai, quand ça me fait penser à la voix de Sébastien le Crabe dans la petite sirène.
Je crois que c'est Henri Salvador.
Eh ben,
à chercher, hein,
Henri Salvador et Strache. Ouais.
On trouve des trucs sur YouTube, par exemple, où on explique comment faire la voix d'Eddie Murphy et le sous-titre, c'est « Vous avez toujours voulu apprendre à imiter un black marrant sans pour autant que ça ait l'air raciste. Parfait. Aujourd'hui, on apprend à imiter Eddie Murphy. »
Ça, c'est quoi
c'est le tuto pour apprendre.
C'est un tuto pour apprendre.
C'est la caption d'une vidéo, c'est ça, YouTube?
Ouais, voilà, c'est ça.
Ok, d'accord.
Oh non.
Et puis pour finir, toujours aussi en bon goût, les guignols de l'info.
« Bonjour, monsieur le président. »
Mais il t'a tiré dessus?
Bah qu'est-ce que tu crois? C'est un flic blanc qui voit un noir, c'est un putain de réflexe ici.
Mais c'est complètement...
Salut Bob.
Bonjour monsieur le président.
Bouge pas négro.
C'était la voix de Obama, c'est ça?
C'est la voix d'Obama.
Mais ils sont fous ces Américains.
Oh du calme Tim, monsieur le président. Excusez-le monsieur le président, il est nouveau.
Pas de problème.
Oh putain.
C'est Obama ça?
Pardon ouais. Monsieur le président.
Ouais, la voix d'Obama c'était ça.
J'ai mis ma main dans ma poche.
Je sais pas comment tu fais, hein.
Rastoche, mec. Suffit d'identifier l'ennemi.
Mélanie, une réaction?
Ça ressemble pas du tout à la voix d'Obama.
Mais on est plus proche, justement, de la version française.
Et ils sont morts, les guignols, non?
Ouais, ça a 3, 4, 5 ans, ça.
C'est bien.
Bref. Aujourd'hui, Eddie Murphy, il attend son dixième enfant. il continue encore à tourner, il est sur des projets. En 2018, il est encore dans le top 10 des acteurs hollywoodiens ayant généré le plus de revenus. Entouré de Samuel L. Jackson, de Morgan Freeman, aux côtés de Harry Sandford, de Robert Downey Jr., de Tom Hanks. Il veut plus faire de stand-up.
Si, j'ai lu une interview assez récente, genre de 2016 ou 17, où il disait que voilà, il y pensait, mais qu'il voulait pas faire du stand-up à proprement parler, mais plus un truc avec du chant, de la danse, un peu un truc, tu vois.
Un one-man show à la française.
Plus un one-man show. Ouais,
un truc à la Gad Elmaleh, quoi.
Ouais, il dit que s'il veut revenir, c'est pour faire un truc, c'est pas juste du stand-up, c'est pas un truc.
On a hâte. Et commercialement parlant, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que celui qui a certainement pris la relève, c'est Kevin Hart.
My mom gave me permission to cuss one time. One time she gave me permission to cuss. I'm in school, I'm
Donc il raconte
bad.
Quand
My
sa mère lui a donné mad. L'autorisation de dire un gros mot pour la première fois.
Comes to the front of the class, wrote a note, stapled the note to my chest. Said, make sure your mother read the note. I get home, my mom read the note. The note said, maybe if you showed your son some more attention at home, he wouldn't act like a fool in school. Right? My mom read the note, she said, let me tell you something. You tell her, mind her damn business before I come down there and I beat her ass. He said, all right, cool. I walk in class, Miss Green, my teacher, she starts speaking to everybody. Hello, good morning, good morning, hello, hello, good morning. She see me, she was like, Kevin. I said, Miss Green. She said, did you let your mother read the note? I said, yes, I did. She said, well, what did your mother say? I took a deep breath, I looked at my friends, I was like, it's about to go down. I said, well,
it's about to go down.
My mom told me to tell you to mind your damn motherfucking business, bitch. Little stupid bitch. Little dumb teaching bitch. 2 + 2 not knowing what the fuck it is, bitch. Cross-eyed crying down your back, fat foot ass bitch. Long titty, no nipple.
Il y a une filiation.
J'aime toujours pas Kevin Hart, mais
ça relève presque de l'imitation en fait, enfin, en termes de voix qu'il prend et tout.
Ouais, il y a quelque chose, il se place dans la droite lignée. Kevin Hart, il est partout. Récemment, on l'a vu dans Jumanji, c'était un accident industriel. Il va justement jouer dans The Upside, qui est l'adaptation américaine, d'Intouchable. Intouchable. Aussi, on vous mettra en lien un article du New York Times où Intouchable se fait un petit peu démolir par la presse américaine. En gros, ça veut dire si pour vous, en 2012 ou 2013 en France, un homme blanc riche qui recrute
Magical
un noir,
Negro.
Voilà, pour devenir son ami, c'est du progrès. Bon, ben, c'est cool pour vous, mais voilà. Et puis finalement, donc on a une adaptation. On va retrouver donc Kevin Hart dans le rôle d'Omar Sy,
Bryan Cranston
de Breaking Bad à la place de François Cluzet et Nicole Kidman. aussi à l'affiche.
La place d'Audrey.
C'est quoi son nom? Je me souviens plus.
Larousse, là.
Oui, Larousse. Bref, c'est pas grave. Et voilà, il y a une forme de retour à l'envoyeur, en fait. Est-ce que le futur, c'est ça? Est-ce que peut-être que les comédies françaises vont faire.
Oui, mais comme les États-Unis ont régressé politiquement.
Je sais pas, mais en tout cas, ma conclusion, c'est que si on veut continuer à pomper les États-Unis sur des espèces de comédies avec un noir et un blanc, autant le faire bien. Un peu comme un film que j'avais beaucoup aimé, qui est sorti il n'y a pas longtemps, et qui s'appelle Get Hard, ou en français, En tôle mode d'emploi. C'est aussi avec Kevin Hart, mais avec le légendaire Will Ferrell.
What reason did you give him to assume that you went to jail?
I was being black.
You're not exactly a thug, Darnell.
All I gotta do is talk a little deeper.
I'm gonna say goodnight.
Bitch, don't walk away from me.
What the hell did you just say to me?
Stop! What is that?
This is my prison readiness program. You master these skills, you will survive in prison. Let me see what your mad dog face look like.
What is a mad dog?
Your mad dog! Ah! What are you doing, James?
Sad dogging you. I think that's a strategy that could work. Please don't sexually assault me, I'm already too sad.
Voilà, donc Eddie Murphy, c'est cool. Allez voir Delirious. Faites attention quand même aux 10 premières minutes, c'est pas à mettre entre toutes les mains.
Toutes les oreilles.
Toutes les oreilles et tous les yeux.
Alors les recommandations de cette semaine, moi j'ai une petite reco musicale comme souvent. Ceux qui suivent le chip depuis longtemps m'ont peut-être entendu déjà parler de Odun Cizi Engin, jeune chanteur, producteur nigérian qui en gros est originaire des environs de Lagos. Il vient de sortir son premier album après avoir sorti quelques EP et quelques morceaux singles à droite à gauche, qui s'appelle Rare, R-A-R-E. C'est un mélange d'afrobeat, de synth pop des années 80, c'est assez cool. Le son que je vous mets là, c'est pas l'album, c'est un morceau qu'il a sorti avant, mais qui est mortel, et ça vous donne un peu une idée de la couleur de ce qu'il fait.
Il a écouté Drake, non?
Il a totalement écouté Drake. C'est pour ça que je l'aime.
Tu as trouvé son remplaçant?
Ouais. Odun Cizi Engin. Je m'attendais à un album beaucoup plus enlevé, beaucoup plus afrobeat, quelque chose comme ce que peut faire Burna Boy ou Mr. Easy. Pas du tout, en fait. C'est de la musique à écouter à 2h du mat, à moitié bourré. C'est vraiment sympa. Un peu comme Drake, oui, comme tu dis. Il y a l'album est quasiment entièrement produit par Odun Cizi lui-même, et il y a des featuring assez cool, c'est très bien choisi. Il y a notamment des poids lourds de la scène nigériane comme Davido et Runtown. Donc pour ceux qui suivent un peu la scène nigériane, c'est good to go, quoi. Allez-y. Donc voilà, c'est dispo sur Spotify. Odun Cizi Engin, Rare, s'il vous plaît, je vous en supplie, écoutez-le.
Alors c'est la rentrée, hein, la rentrée des séries, on est toujours au taquet. Moi j'ai envie de vous parler de All American.
Y'all set me up, make me look bad. You got me confused with somebody else, bro.
Yeah, go back to Crenshaw.
What you say? Say that again, bro. Hey. I ain't come here for this.
Boy, you better not disrespect me. You came here to play football. Am I right or am I wrong?
Ah, le football américain. Alors, c'est une série qui, pour moi, raison numéro un, qui va convenir aux fans de Friday Night Lights. Je ne sais pas si vous avez vu cette série.
J'ai vu quelques épisodes.
Qui est quand même une des grandes séries des années 2000. Donc, si vous ne l'avez pas vue, remédiez-y tout de suite. C'est une série qui se centre autour d'une petite ville du Texas et de son équipe de football du lycée. Et donc, c'est en fait une série qui parle beaucoup plus de société que de football au final. Et c'est aussi une série qui n'a pas connu le succès qu'elle méritait parce qu'elle est arrivée avant Peak TV, ce qu'on connaît actuellement. Je pense que si elle sortait sur Netflix aujourd'hui, ce serait un carton international. D'ailleurs, c'est aussi une série qui a révélé Michael B. Jordan après son passage dans The Wire dans les deux dernières saisons où il jouait un rôle de quarterback. Donc, quand j'ai vu All American, une série de foot, d'adolescents, de différentes classes sociales qui s'opposent, de scènes de mecs qui courent au ralenti, je me suis précipitée parce que...
Ah ouais ?
Ah mais oui, parce que je me suis dit... Allez, non, non, non. Mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est que le héros est noir. Donc, c'est Spencer James qui est incarné par un certain Daniel Ezra, qui du coup est un ado issu du district de Crenshaw au sud de Los Angeles, donc une partie défavorisée, et qui va au lycée de Beverly Hills pour s'entraîner et potentiellement devenir plus tard un grand joueur. Donc là où Friday Night Lights, ça se concentrait quand même sur les white trash, là on suit du coup un ado afro-américain. Ouais.
Est-ce qu'il y aurait une version à Belleville? C'est comme là une version avec, je sais pas, le fils d'Omar Sy.
Mais il y aurait tellement une série française à faire sur c'est le ça. Foot de banlieue. Mais bon, vu ce qui se passe en ce moment à la télé française, je crois que c'est pas pour tout de suite. Mais là, du coup, c'est intéressant parce que la série traite vraiment du décalage entre un entourage en majorité blanc et riche qui veut utiliser un jeune homme noir et pauvre à des fins commerciales. Quoi. En gros, il doit être une sur son dos. Quoi. Donc la série, il y a aussi Ty Diggs dedans, qui est un acteur qui a fait plein de séries. Et notamment The Good Wife ou Empire. Il joue ici le rôle du coach au grand cœur. Donc là, c'est vraiment la relation entre deux hommes noirs qui sont dans un milieu qui ne les comprend pas et qui veulent y réussir. Bon, il y a beaucoup de déjà-vu. Hein, l'ado de quartier difficile qui débarque chez les riches, ça rappelle un peu Newport Beach pour les fans magnifique série.
Z aussi.
La relation père-fils avec le coach, pour ceux qui ont vu Friday Night Lights, ça va leur rappeler le coach Taylor qui est toujours dans nos cœurs. Et il y a bien sûr aussi toutes les castes du lycée. Il y a tous les codes avec le triangle amoureux, la bande son hype. Il y a aussi des dialogues un peu gnangnang parce qu'on est sur la CW, malheureusement, qui est la chaîne pour les ados. Il y a certains acteurs, on se demande un peu comment ils sont arrivés là. Mais bon, bref, moi, j'y crois parce que les pilotes, c'est souvent difficile d'avoir un bon pilote qui annonce bien l'état. Pour l'instant, il n'y a qu'un épisode. Mais je voulais quand même en parler parce que voilà, les nostalgiques de Friday Night Lights qui avaient envie de voir plus de personnages noirs seront servis avec cette série.
Alors moi, ça va être court. Ma recommandation cette semaine, c'est un podcast français qui s'appelle Splash. C'est produit chez Nouvelles Écoutes. C'est présenté par Étienne et Laurine, qui toutes les deux semaines s'attaquent aux questions économiques qui dérangent, donc les paradis fiscaux, à quoi servent les notaires, etc. Et du coup, j'en ai profité pour poser une question. Donc j'avais croisé il y a quelques mois Étienne à un apéro et je lui avais dit « Ouais, j'ai une question. »
Une question d'auditeur.
Et donc voilà, j'ai posé ma question et en gros c'est « Pourquoi la vie coûte-t-elle aussi cher en Outre-mer ?» Et donc Étienne est parti à l'enquête.
En Outre-mer.
Non, alors du coup il est resté chez lui, il est prof à Marseille, mais il a bien bossé. En fait, il part, son point de départ, c'est l'entreprise CGA-CGM qui est basée à Marseille et donc il part de cette entreprise pour faire toute une analyse très très fine et y a plein de facteurs qui expliquent ces problèmes de prix, de coût de la vie assez exorbitants aux Antilles, mais il interroge les experts, notamment Michel Branchy, un économiste martiniquais, et puis aussi il vulgarise pour les gens qui n'ont pas de licence d'économie des enjeux qui se passent principalement aux Antilles, mais qui aussi se retrouvent dans le reste des Outre-mer. Donc, il aborde notamment la question coloniale, des questions qui fâchent, qui grattent un peu.
Poil à gratter.
Il parle d'ethnoclasse, tout ça. Donc oui, moi je vous recommande. Merci Étienne, il a fait du super boulot et c'est un podcast vraiment très cool.
C'était le chip. On revient dans 15 jours. Et ce, malgré vos réclamations hebdomadaires sur les réseaux sociaux pour qu'on soit là toutes les semaines. On peut pas, on a des familles nombreuses. Voilà, on revient dans 15 jours. En attendant,
des familles nombreuses.
Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Instagram, sur @lechippodcast. Vous pouvez demander des nudes à François. Non, pardon. Et...
pardon.
Mais surtout, vous pouvez surtout nous envoyer des questions parce qu'on s'est dit que ça serait sympa de préparer un épisode questions. Question pour un champion, où on pourrait répondre à vos dilemmes pop culture et race, voilà, parce qu'on est comme ça.
Et pour les nudes, le hâte de François, c'est Franzoul.
Arrêtez là, arrêtez.
L'embuscade. Laissez-nous une review sur iTunes, Apple Podcast. Mettez-nous 5 étoiles pour nous faire remonter dans le classement.
On est sur Spotify aussi.
On est arrivé sur Spotify, on est dans la place.
Comme jamais.
Écoutez-nous, parlez de nous à votre famille. Cette émission a été réalisée par Quentin Bresson et on lui dit merci Quentin.
Merci Quentin.
À très vite.
Bisous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.